terk etmedi, terk etmedi.
Donc, Émilien Bernard, vous êtes journaliste et avez notamment publié des articles dans le journal CQFD, Article 11 ou encore Le Canard Enchaîné. Et depuis plusieurs années, vous documentez les effets des politiques migratoires en Europe et en avez tiré un ouvrage, Forteresse Europe, enquête sur l'envers de nos frontières. Un livre dans lequel vous revenez sur la bunkérisation des États occidentaux et en particulier de l'Europe, qui pose l'enjeu des effets mortifères des politiques migratoires, desquelles sortent des frontières qui ralentissent et mettent en danger les personnes exilées qui tentent de les passer. Donc déjà, bonjour Émilien Bernard et merci d'avoir accepté l'invitation de Micro Rebelle.
Bah, bonjour et bah, de rien, c'est un plaisir.
Et peut-être ouais, pour commencer, là j'ai déjà pu un peu vous présenter en quelques mots, mais est-ce que vous pourriez peut-être aussi ouais, vous représenter et puis nous dire un peu depuis combien de temps vous travaillez sur, bah, sur la question des frontières, sur les questions migratoires aussi plus généralement?
Alors, généralement, moi je suis journaliste indépendant, surtout focalisé sur ce qu'on appelle, je ne sais pas, la presse alternative, la presse pas pareille, disent certains, disons souvent des petits journaux comme avant, il y a un certain temps, j'avais lancé un journal avec mon frère qui s'appelait Article 11, et maintenant je participe à CQFD, et c'est un peu le même genre d'économie de bidouille, où bah c'est là par exemple CQFD, c'est un mensuel et qui est fait avec très peu de moyens parce qu'on ne vend pas énormément. On a un mensuel qui se définirait comme libertaire, qui vient d'une tradition anarchiste, mais qui travaille avec les outils du journalisme. Enfin, c'est pas pas du tout qu'un journal d'opinion, c'est un journal d'enquête, c'est un journal de beaucoup de choses. Et je travaille beaucoup dans cet univers aussi où il n'y a pas beaucoup d'argent, moi je suis, pour gagner ma vie, à côté je suis souvent traducteur. En fait, je traduis des ouvrages de l'anglais au français. Et pour en revenir à la question plus spécifique du travail sur les frontières, en fait, bah, je citais Article 11. Disons que c'est un sujet que j'ai souvent croisé ou que j'ai commencé à aller voir, disons quand je travaillais Article 11, notamment j'étais allé plusieurs fois à Calais, j'étais allé à Melilla et c'était il y a je pense une quinzaine d'années, donc c'est aussi ce livre il se veut aussi un peu une analyse un peu sur le long terme, sachant que ça fait longtemps que je creuse ces questions, que je les creusais, disons, de temps en temps. Il y avait un sujet par-ci, un sujet par-là, qui me renvoyait finalement souvent aux mêmes choses, c'est-à-dire des histoires de maltraitance, d'organisation étatique ou européenne, pour finalement mettre des obstacles aux migrations. Mais que c'est avec ce livre que, à un moment, là, d'un coup, bah, j'ai eu en tête l'idée de ce livre, en me disant qu'en fait, ces petits points que j'avais, qui étaient Calais, qui étaient Melilla, qui étaient Briançon, la vallée de la Roya, bah, en fait, c'était pas des zones hors normes, que c'était, enfin, si, c'était peut-être des zones particulièrement symptomatiques, mais qu'elles étaient symptomatiques de quelque chose qui faisait système. Et qu'on croisait, en fait, absolument partout. Et là, je suis allé voir aussi, du coup, pour les besoins de ce livre, alors c'était publié dans CQFD, dans les Balkans, j'étais voir le mur à la frontière serbo-hongroise, construit par Orban en 2015. Je suis retourné à Melilla, je suis allé en Tunisie, je suis allé à Lampedusa, je suis retourné à Calais, pour voir un peu ce qui pouvait un peu faire système, et ce qui était... pas du tout que quelques petits points sur la zone où, ah, là, c'est une zone de maltraitance, mais c'est peu à peu, pendant un an, j'ai vraiment beaucoup plus bossé ces questions, mais que je labourais un peu de ci, de là avant.
Labourer le terrain. Et justement, moi, c'était une autre question que je me posais aussi. C'est pas la même approche, justement, de passer, d'enquêter, de travailler sur ces terrains-là, et donc d'en faire des articles, et de construire un ouvrage sur tout un sujet comme celui-ci. Et moi, je me demandais déjà, l'envie que vous exprimiez, c'était justement de prendre un peu de recul, de faire aussi de l'analyse, mais c'est quoi l'envie qui était derrière d'en faire un livre, en fait? Quels étaient les objectifs aussi sous-jacents?
Et là, je répète peut-être un tout petit peu, qu'il y avait cette idée de montrer le côté systématique de la chose et le côté organisé. Quand il y a, je sais pas, c'est des questions qui passent peu l'actualité. Quelquefois, à l'occasion d'un drame particulièrement sordide, comme, le massacre... j'ai plus la date exactement, je crois que c'est le 22 juin 2022 à la frontière de Melilla, peut-être je me trompe, mais où 30 migrants, 30 personnes exilées au moins meurent pendant le passage de la frontière, et avec des images qui sont diffusées, on avait vu, surtout en 2015, à la mort de ce qu'on appelait le petit Aylan, mais qui était le petit Alan, quelques moments où les médias mainstream se focalisent un peu dessus, en mode il s'est passé un gros truc, mais très vite ça disparaît. Et je sais pas, l'idée de ce bouquin, c'était de dire que déjà, par exemple, la mort du petit Alan, des morts comme ça, en fait, qui ne sont pas photographiées de cette même manière, c'est cette image qui avait été reprise partout, et qui avait provoqué un sursaut en 2015 des opinions européennes, et notamment en Allemagne, où Angela Merkel avait décidé d'accueillir un million de personnes exilées, notamment des Syriens qui fuyaient la guerre. Mais à part quelques moments, cette question, elle n'existe pas. Et disons que, à force de faire des reportages, d'aller à des endroits plus ou moins connus, qui sont quand même souvent des endroits qui sont des points de fixation, de crispation, mais de comprendre à quel point cette question qui est ignorée, qui n'apparaît que sur quelques drames médiatisés, il y a un systématisme, que c'est pas un bateau qui une fois coule en Méditerranée, c'est pas une personne qui à un moment meurt dans son parcours de migration, c'est que ça soit dans les frontières de l'Europe ou en dehors via les politiques d'externalisation, c'est-à-dire soit l'Union européenne, soit des États comme par exemple l'Italie avec la Libye ou l'Espagne avec le Maroc, donne énormément d'argent aux pays concernés pour repousser encore plus loin les maltraitances, les obstacles. Et j'ai l'impression que ce livre, il a peut-être d'ailleurs ce défaut, c'est-à-dire que il y a plein de livres qui sortent focalisés sur un point d'une frontière. Par exemple, j'imagine que vous connaissez, c'est pas loin de chez vous, le livre de Louis Witter, qui s'appelle « L'abattu », qui est focalisé sur Calais. Récemment, Didier Fassin et une autrice dont j'oublie le nom ont sorti un livre sur la situation à Briançon. Et l'idée de ce livre, je me suis dit, c'est que n'existe pas, à ma connaissance, de vision qui se veuille plus panoramique, plus générale, et qui ne soit pas une écriture universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des livres très bien qui sortent, qui abordent la question de manière plus générale, mais qui sont souvent écrits plus de l'ordre de l'analyse un peu universitaire que du travail de terrain. Et j'avais l'impression que, il doit y avoir, le livre est divisé en trois parties qui sont avant les murs, avant les flots, ensuite, traverser les murs, affronter la mer, et ensuite, après les murs, il y a d'autres murs. Donc, il y a une dizaine de lieux, une dizaine de chapitres. et que finalement, l'idée, c'était d'essayer de, voilà, de rendre compte quelque chose qui n'était pas cantonné à quelques événements particuliers, type des naufrages particulièrement meurtriers, ou à quelques zones, comme par exemple, la barrière de Melilla, elle est connue, mais là, énormément, et encore, elle est un peu connue, mais elle a énormément de semblables, et finalement, au début, je me suis dit que je voulais presque faire une cartographie des murs. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en l'Union européenne, il y avait avec l'idée de Schengen, de tout ça, il y avait l'idée d'abolir les murs. Et là, on en est à plus de 2000 km de murs dans des pays européens, spécifiquement anti-migrants. Et derrière cette réalité, il y a le mur en tant que matérialité qui se développe. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est finalement la forteresse législative, la forteresse idéologique, qu'il y a une épidémie de murs en Europe et qu'elle n'est pas uniquement matérielle. Et voilà, je voulais faire une espèce de voyage ou de résumé de ce qu'impliquent ces différentes situations.
Dans ce que vous dites, il y a deux choses notamment qui m'intéressent, à la fois ceux et celles qui produisent cette forteresse Europe, et de l'autre côté, ces dispositifs qui sont érigés, que ce soit les murs, les barbelés, mais on peut aller plus loin aussi sur tout ce qui est caméras, algorithmes et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, j'ai déjà une première question, c'est qui sont ces personnes, qui sont ces acteurs, qui sont ces institutions qui produisent cette forteresse Europe ?
Pour moi, alors, ça avance déjà avec des politiques et avec un certain air du temps, dans toute l'Europe, il y a de plus une espèce de mouvement de repli identitaire. Enfin, toute l'Europe, il y a des zones qui échappent plus ou moins à ça. Mais disons que on voit dans... Alors, il y a des exemples caricaturaux comme la Hongrie d'Orban. Par exemple, Orban, c'est un cas très intéressant. Orban, c'est un des premiers qui relance, disons, cette espèce de folie des murs en 2015 et qui érige la frontière avec la Serbie et après aussi avec la Roumanie, qui érige une frontière très impressionnante. Et en fait, alors, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, de Giuliano Dell'Empoli, qui raconte, par exemple, comment Orban, à un moment où la question migratoire en Hongrie, elle n'existe pas vraiment. Disons qu'il y a, en 2015, par exemple, quand il y a un exil généralisé qui vient de Syrie et d'Afghanistan, beaucoup de gens passent en Hongrie, beaucoup de personnes exilées. Mais pas grand monde ne souhaite s'y arrêter. C'est juste, disons, une migration de passage qui a des chiffres tout à fait gérables. Et comment il érige la figure du migrant en danger? Comment il est élu grâce à ça? Comment il est élu en utilisant un peu les mêmes... c'est ce que raconte le livre dont je parle, les ingénieurs du chaos. Il utilise un peu les mêmes ingrédients que des gens comme Trump, des gens comme Bolsonaro, c'est-à-dire des trucs qui sont plutôt de la fake news, de l'émotionnel, de « on est envahi, il faut faire quelque chose ». Et je pense que c'est un des principaux moteurs de cette espèce de forteresse, c'est en fait l'utilisation par des politiques de cette figure du bouc émissaire qui est extrêmement efficace. Et face à cette idée d'invasion, qu'on voit se profiler beaucoup en France, avec l'idée du grand remplacement, avec l'idée de la préférence nationale, qui sont des idées de plus en plus entérinées, à un moment, quelle est la solution la plus simple, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, mais pour répondre à cette peur que l'on crée, c'est d'ériger des murs. Alors après, derrière ça, il y a tout un écosystème déjà d'industriels de l'armement, parce que c'est aussi de l'armement, du BTP, mais c'est aussi des gens, par exemple, dans le livre, je détaille un peu ce qu'a pu compter la frontière de Melilla. Alors j'ai déjà cité, peut-être si les auditeurs connaissent pas, qui est un mur qui lui a été commencé à être construit à la fin des années 90 et qui s'est depuis de plus en plus perfectionné au point d'atteindre 10 mètres de haut par endroit, d'avoir des dispositifs technologiques absolument déments, et qui est dans l'enclave espagnole au Maroc de Melilla. Il y a une autre enclave espagnole au Maroc qui est à Ceuta, qui pareil a un dispositif de mur. Et donc, il y a cette dimension après matérielle, c'est-à-dire de ce que ça a coûté, de qui sont ces gens derrière, d'une espèce d'accélération technologique aussi, de drones, de caméras intelligentes. Là, par exemple, à la frontière Pologne-Biélorussie, il y a un mur qui a été récemment construit, qui envoie quand on s'approche, il y a des dispositifs qui fait que des micros se déclenchent, écrits dans toutes les langues, partez, c'est très dangereux, vous ne serez pas bien accueillis. À la frontière gréco-turque, il y a des canons anti-son, qui sont des trucs a priori qui dissuadent, qui sont tellement douloureux pour l'oreille qu'on ne passe pas. Et ça, c'est la course en avant, disons, de l'industrie de l'armement, de l'industrie de la surveillance. Donc il y a des intérêts derrière ça. Mais au départ, je pense vraiment que c'est l'utilisation par des politiques de l'agitation mensongère, en tout cas sur l'idée d'invasion, de remplacement. C'est-à-dire que les chiffres montrent que, par exemple, en France, un, on n'est pas spécialement hospitalier, et deux, on est dans des chiffres réguliers, tout à fait gérables, ce qu'on a d'ailleurs vu avec l'accueil des Ukrainiens à un moment. Et du coup, l'utilisation de cette idée d'une espèce de masse de migrants qui menaçait l'Europe, et qui menacerait nos frontières, donc les frontières nationales. Et donc après, voilà, je disais, il y a d'un côté les gouvernements nationaux qui usent de ça, la Hongrie d'Orban, par exemple, en exemple parfait, mais on voit très bien qu'en France, en Espagne, en Grèce, c'est aussi instrumentalisé. Deuxièmement, bah oui, évidemment, un écosystème de l'armement, des technologies de surveillance. Il y a des lobbies aussi qui, à Bruxelles ou dans les États, se battent pour construire la forteresse, et puis ensuite il y a l'Europe qui chapeaute ça, et qui finalement, que ça soit via Frontex, qui est donc l'agence de surveillance aux frontières européennes, qui est maintenant le premier poste de dépense de l'Union européenne, donc voilà, qui matériellement intervient de plus en plus sur les frontières européennes et au-delà, parce qu'ils essayent de s'installer au-delà. Mais il y a par exemple quelque chose d'intéressant, c'est le jour où Macron se félicitait de la loi Asile et Immigration, donc qui restreint encore les conditions du droit d'asile, qui rend la vie des personnes exilées encore plus compliquée en France, était voté au Parlement européen, là, disons, le prémisse d'une loi qui est en train de se mettre en place, qui fait la même chose au niveau européen. Donc cette espèce d'instrumentalisation de la question des frontières, eh ben, elle est pour moi évidemment politique, aussi parce que c'est des effets de manche. Et on la retrouve, voilà, sur les terrains nationaux et supranationaux au niveau de l'Europe. Il y a aussi la même idée de la forteresse qui se met en place avec des mots feutrés et avec des termes qui viennent un peu, j'utilise très peu le terme de forteresse, mais à l'arrivée, c'est bien ce qui se passe. C'est quelque chose de généralisé.
Toutes ces politiques, tous ces dispositifs, que ce soit les caméras, les murs, les barbelés ou autres, ça peut être aussi effectivement lié à de l'instrumentalisation, à des effets d'aubaine, mais ça a aussi des effets quand même concrets sur les personnes exilées. Là, vous citiez tout à l'heure sur Melia notamment, sur des personnes qui en meurent. Et là, peut-être, je voulais revenir aussi, vous reveniez aussi un peu là-dessus, sur quels sont ces effets de ces dispositifs sur les personnes exilées qui tentent de passer ou qui parviennent ou non. Et est-ce que ça en a aussi des effets concrets ou non sur le fait de passer à un moment donné ou non en Europe, parce que là on parle de l'Europe, mais ça marche aussi même pour les États-Unis aussi, ou d'autres frontières où les mêmes dispositifs se retrouvent, se reproduisent aussi.
Par exemple, si on prend le cas des États-Unis, de la frontière mexicaine, moi il y a une citation que j'aime bien parce qu'elle m'apparaît très vraie. C'était une opposante à Trump, démocrate, qui s'appelle Janet Politano, qui, à propos de l'espèce de vieille lubie de Trump, qu'il n'a pas abandonné d'ailleurs, qui a été d'ailleurs beaucoup mise en place, donc de murs à la frontière américano-mexicaine, elle disait « Montrez-moi un mur de 14 mètres, je vous montrerai une échelle de 15 mètres de haut. » Et de manière générale, l'effet concret des murs, c'est des murs et après des... Parce que je considère que, par exemple, dans les océans aussi, que ce soit la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, il y a des murs aussi qui sont les gardes-côtes, qui sont enfin, faire en sorte que les traversées soient finalement plus compliquées en empêchant le travail des associations humanitaires, en machin. Mais de manière générale, que ce soit en mer ou sur terre, ces politiques, elles ne changent pas du tout le nombre de personnes qui passent, à part sur une seule chose, c'est le nombre de morts. Plus il y a de murs, plus il y a d'obstacles, plus, et l'exemple des États-Unis est un bon cas, j'ai plus les chiffres exactement, mais de monde, pour échapper à ces murs, il y a des gens qui meurent dans le désert parce que leur route implique de faire une marche absolument démente, et c'est ce qu'on retrouve un peu partout en fait. Les murs, quelquefois, on les passe. Si on les passe pas, on les contourne. Parce que où que je sois allé, mais c'est vous, je pense que vous connaissez bien la situation à Calais. Les gens à Calais, on a beau leur mettre tous les bâtons dans les roues, on a beau des fois essayer de les repousser plus loin, de les mettre dans des... comme pendant la destruction de la jungle, où des gens étaient renvoyés dans le sud de la France. Ces personnes sont là avec un objectif et qui correspond à toute leur vie, et qui correspond à... souvent, ils ont mis toutes leurs économies. Souvent, et disons, ils font ça aussi pour leur famille. Il est, je crois, enfin, il y a peu de territoires, je ne vais pas aller assez loin, mais... où tu crois des gens qui diront « Bon, là, c'est trop dur, je rebrousse chemin. » En fait, ça se passe pas comme ça. Les gens, ils ont déjà tellement enduré, que ce soit à Melilla ou... Mais voilà, évidemment à Calais, mais à Briançon, il n'y a jamais un moment où ils vont dire « Ah non, ça, c'est trop dangereux, je vais pas le faire. » Et ce qui engendre une surmortalité, ce qui fait que à l'arrivée, ces dispositifs, ils sont toujours à un moment ou à un autre dépassés, qu'ils soient contournés ou autre. Par exemple, le mur de Melilla, c'est intéressant, depuis le massacre à la frontière d'une trentaine de personnes dont je parle, là, c'est vrai que les Marocains, suite à des accords avec l'Espagne, avec l'Union européenne, ont tellement déployé une surmilitarisation de la zone, c'est-à-dire autour du mur, mais même dans les villes proches, que pour l'instant, en l'état actuel des choses, il n'y a plus personne qui passe par Melilla. Donc pas à cause du mur, mais parce que toute la zone est devenue complètement... voilà, une zone vraiment, là, pour le coup, de non-droit, où les personnes exilées d'origine subsaharienne sont tabassées, dès qu'ils croisent les flics, ils sont mis dans des bus et renvoyés dans le sud du pays. Et là, il y a du coup, ce que ça provoque, et c'est pas le mur que les gens arrivaient à passer, et qui trouvaient toujours des techniques, que ce soit des attaques collectives, que ce soit des stratégies. Parce qu'il y a aussi cette idée, enfin, et moi qui m'apportais dans le livre, c'est de dire à un moment, on voit toujours ces gens comme des victimes, comme un peu des gens sans visage et un peu des gens qui passent en masse et qui n'ont pas trop d'individualité, mais il y a énormément de réseaux d'entraide, de formes d'ingéniosité collective, c'est-à-dire que il y a aussi des organisations pour là je parle pas des passeurs, des gens qui passeurs, bon, il y a différents types de passeurs, mais là il s'agit en tant que gens qui se retrouvent des fois face à un même truc de s'organiser et de dépasser le dispositif frontalier, et si à un moment c'est impossible, évidemment ça se décale à un autre endroit qui sera souvent plus dangereux, ce qui occasionnera plus de morts, mais de manière générale, l'efficacité de ces dispositifs, et Calais, par exemple, est un très bon exemple. Ça fait 30, 40 ans qu'il y a une espèce de surmilitarisation de la zone qui a abouti à un moment à un mode de passage différent, qui est le mode de passage maritime. Et en voilà, 40 ans, des millions et des millions dépensés pour un surarmement, la vie des gens rendue impossible, et ça ne change absolument rien au fait que, bah oui, ces gens, ils finissent par passer, et bah évidemment, moi, dans ma vision des choses, tant mieux. Mais même dans leur vision des choses, c'est-à-dire une vision des choses ultra-libérale ou même, je sais pas, c'est juste complètement absurde. Tout ce que créent ces dispositifs, c'est plus de souffrance pour les gens et des dépenses, après moi c'est pas mon inquiétude, mais complètement inconsidérées pour des dispositifs qui finalement arrivés sont inutiles.
Bah, je voulais en parler, je voyais, ça c'est un ouvrage aussi que vous citez, dans le livre La Forteresse Europe, c'est Wendy Brown sur la question du déclin de la souveraineté étatique et sur un peu la symbolique aussi des murs. Bon, ce n'est pas qu'un symbole, mais c'est aussi sur la question de la mise en scène de la force de l'État, la force de l'Union européenne, là, mais aussi des États-Unis. C'est sur comment ces murs sont aussi là, un peu comme un rappel de la force de l'État. Et dans tout ce que vous dites, c'est aussi ça, c'est de se dire, on fait des murs parce que c'est les matérialités, il y a une visibilité aussi de la frontière via ces murs, quoi. Et ça me fait penser à un autre aspect aussi, c'est que justement, en termes d'effet aussi qu'ont ces murs, mais aussi les dispositifs un peu liberticides, les dispositifs de frontiérisation, disons, mais aussi de bunkerisation, c'est ce que ça produit aussi comme effet plus psychologique aussi sur l'humain et sur les personnes exilées ici. C'est sur cette question de la production de la folie aussi, de l'empêchement, du refus, de l'épuisement, de comment en fait tout est fait aussi pour essayer de broyer les personnes, mais aussi les déshumaniser. Là, je reprenais, c'était un chercheur dont j'ai oublié le nom, mais qui parlait justement de comment on utilise des termes qui sont sur la question des flux, sur la question des flots, sur la question de l'écoulement, où finalement, ouais, on déshumanise les personnes. Et je me demandais, c'est des choses comme ça aussi que vous avez pu aborder, et comment vous avez pu aussi l'observer, et peut-être en parler directement avec les personnes exilées concernées dans les différents territoires où vous avez pu vous rendre ces dernières années.
Je pense que les murs, ils adressent un message des deux côtés. Ils adressent un message aux personnes qui veulent passer, qui veulent arriver en Europe, et ils adressent un message aussi aux populations. Je pense d'ailleurs que, enfin, aux populations des pays. Je pense que c'est d'ailleurs, par exemple, le mur d'Orban, c'est exactement ça, ou même le mur à la frontière, enfin, à Melilla, enfin, partout. Donc il y a cette idée, ou à Calais, cette idée. Regardez, l'État agit. Regardez, nous ne sommes pas impuissants face à un péril, d'ailleurs, que nous montons idéologiquement de toutes pièces, mais voilà, nous faisons des choses, nous avons des drones, nous avons des... Mais pour les exilés, je pense que à toutes les étapes de quasiment de la migration maintenant, après ça dépend où on part, mais si on part par exemple de pays subsahariens, qu'on arrive en Algérie, qu'on va soit en Libye, soit vers la Tunisie ou le Maroc, déjà même avant l'arrivée en Europe, il y a cette espèce de chasse à l'homme. Avec en plus évidemment des réseaux locaux mafieux qui profitent de ça, des violences, et que ça, c'est évidemment intériorisé, c'est évidemment ça produit énormément de traumatismes. Les gens qui arrivent en Europe après des parcours de plusieurs années, des fois c'est évidemment des gens qui ont vécu des choses terribles et qui ensuite, quand ils sont en Europe, font face à certains endroits à des murs, mais font face aussi après à tout ce qui est le processus d'invisibilisation, parce que c'est quand même une des grandes choses qui est visée, c'est en même temps le côté spectaculaire de la construction de murs, et tout ça s'affiche, ou de grandes paroles, je sais pas, quand Darmanin va à Calais, ou quand... Et en dehors de ça, des gens qui sont sommés d'être le plus discret possible, mais là, ça se joue aussi à des niveaux locaux, qui sont sommés de ne pas être visibles. À Calais, c'est vraiment ce qu'on a vu après la destruction de la jungle, c'est vraiment une espèce d'atomisation, de sommation à ne même plus, même dans les marges à Calais où on vient détruire la tente des gens tous les deux jours, il y a ce truc qui revient de souvent, qui est un peu une espèce de cri du cœur de pourquoi on nous fait ça, qui est juste humain. Moi, je sais que quand j'étais à Melilla, de l'autre côté de Melilla, il y a le mont Gourougou. Et c'est peut-être un des premiers reportages que j'avais fait qui est présent dans ce livre. Et le mont Gourougou, quand j'avais été, quand j'y suis retourné, il n'y avait plus personne. Parce que c'est ce que je racontais avant, là, ces derniers temps, il y a une telle militarisation que pour l'instant, la route s'est détournée. Mais c'était en 2013 et 2014, et il y avait je me rappelle d'une discussion avec un jeune exilé guinéen qui s'appelait Mauricio, et on venait de discuter avec plusieurs personnes qui expliquaient que les flics marocains faisaient des rafles tous les soirs dans leur camp de fortune, où ils vivaient dans la roca, il n'y avait absolument rien, et que quand ils arrivaient à mettre la main sur des gens, ils leur cassaient soit un poignet, soit une cheville, pour qu'ils ne puissent plus essayer de passer le mur. Et je me rappelle de Mauricio qui m'avait dit à un moment, certains ici disent que l'Europe paye les flics marocains pour faire ça, mais moi j'y crois pas, pourquoi ils feraient ça? Et je n'avais pas su quoi répondre d'ailleurs, mais il y a un peu ce truc qui n'est même pas de la naïveté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, je pense, une espèce d'incompréhension de l'ampleur des dispositifs et de la généralisation des dispositifs, mais qu'on peut ensuite croiser en France face à des gens qui font face à une administration... qui fait tout pour que ils aient pas leur demande d'asile alors que toutes les conditions sont réunies, qui font face une xénophobie de plus en plus présente, qui font face donc il y a cette idée, je pense presque de plus en plus entérinée aussi, qu'il faut se faire discret, qu'il faut rester aux marges. Et donc après tous les traumatismes de la route, après ou de la mer, après tout ça, il y a cette espèce de truc diffus que moi je suis pas psychologue, je suis pas un machin, mais qui est je pense, très présent. On veut pas de nous, mais quoi qu'on fasse, enfin, de cette espèce de truc entériné de bah, deux poids, deux mesures, mais un point extrêmement radical. Et alors, en plus, pour les gens qui bossent au noir, qui sont indispensables d'ailleurs aux économies des pays, qui font les boulots que les Européens ne veulent pas le faire, bah, cette espèce de truc d'injustice absolue.
Bah, peut-être, c'est un peu, ça peut être une forme de réponse à tout ce qui est décrit aussi dans le livre. C'est la proposition qui est faite d'appeler à une internationale pour abattre les frontières. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette idée et sur peut-être un peu sur quelques collectifs ou quelques structures qui pensent aussi qu'à un moment donné, c'est peut-être une des solutions pour mettre un terme à tous ces effets, toutes ces violences à l'égard des personnes exilées, mais aussi des étrangers, en fait, comme vous l'évoquiez, en France, qui se prennent de voler aussi leur absence de papier, ou en tout cas un refus de rester là, de pouvoir travailler aussi légalement sur les différents territoires européens et en France également.
Alors je pense cette idée d'une internationale, elle est un peu naïve eu égard aux situations actuelles, qu'elles soient nationales ou européennes. Je pense que j'ai utilisé le mot international justement pour rappeler à une certaine extrême gauche qui délaisse ces questions en pensant que électoralement elles sont contre-productives ou que parler de ces sujets n'est pas, en tout cas pas du tout leur priorité. C'est de dire que, bah, en tout cas, l'extrême gauche à laquelle je crois, c'est une extrême gauche justement universaliste, qui est dans l'idée de l'accueil et qu'elle a longtemps eu. J'ai l'impression qu'au regard de l'importance de la question, il y a une démission, plus ou moins patente selon les formations, selon les personnes. Mais que cette question, elle est pas du tout aussi centrale qu'elle devrait l'être, en tout cas chez des personnes dont je me sentirais plus ou moins proche politiquement. Donc cette idée d'international, je pense que je l'ai citée aussi pour ça, par rapport à une espèce d'idée de voilà, d'inscription dans le long terme de valeur de la gauche et de l'extrême gauche. Et ensuite, par contre, c'est quand même la dimension, je pense, parce que mon livre, il est pas très positif. Il vient passer au scalpel des territoires où généralement tout est fait de manière assez inhumaine pour compliquer et plus que ça, enfin pour rendre la vie impossible des gens, jusque souvent la mort. Mais par contre, dans les territoires où les personnes arrivent, malgré souvent, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple de Briançon, on peut prendre le cas de Calais, on peut prendre le cas de la vallée de la Roya, qui est un très bon exemple, c'est que déjà, dans une période de xénophobie, disons, grandissante, qu'on voit de plus en plus dans les médias, dans les discours, une fois au contact des personnes exilées, les personnes locales, souvent, je ne dis pas que évidemment, c'est un raz-de-marée, mais qu'il y a énormément de personnes qui localement décident de s'investir, décident de se. Enfin, font tomber leurs œillères et comprennent évidemment que ces gens sont comme eux et moi, que parmi eux, c'est pas évidemment tous des anges, qu'il y a des gens qui s'entendront bien, d'autres pas, qu'il y a des chieurs, qu'il y a des machins, mais qu'ils se trouvent face à des humanités et des visages. Et ça, souvent l'État ou les municipalités essayent de mettre des bâtons, mais malgré ça, il y a ça au niveau local, la promiscuité avec ces personnes qui souvent sont désignées comme des masses, sont désignées comme des dangers, ça les fait se décaler. Et ensuite, après, il y a aussi cette idée que il n'y a pas qu'en Europe que ça s'organise, il y a aussi de l'autre côté de la Méditerranée, des solidarités, des gens qui créent des associations, qui se créent à Laayoun, au Sahara occidental, dans un contexte de répression, aussi des solidarités locales et aussi des personnes qui vont tenir le registre des morts en mer, qui vont participer à, je sais pas, des réseaux transnationaux comme Alarm Phone, auquel je consacre un chapitre, qui est une initiative née en Europe, mais qui inclut aussi des activistes ou des militants ou des solidaires, aussi des pays subsahariens ou des pays du Maghreb, et que y a en fait beaucoup d'endroits où, contre les propagandes étatiques ou supra-étatiques, au niveau local, il y a moyen d'être optimiste. Et je sais que, par exemple, en conclusion, je parle d'un collectif libyen qui s'est monté en Libye dans un contexte de répression absolument terrible, qui s'appelait Refugees in Libya. Et depuis, certains sont morts. Ils ont organisé des manifestations à Tripoli de plusieurs milliers de personnes exilées, demandant des droits, demandant qu'on arrête de les torturer dans des prisons, demandant que l'Union européenne et l'Italie arrêtent de financer la Libye. Il y a une énorme répression. Et puis malgré tout, certains sont passés en Europe et maintenant organisent des manifestations. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Marseille. Et eux, leur truc, c'est de dire, là pour le coup, ces personnes exilées faisant partie de Refugees in Libya, de dire, il faut qu'on soit rejoint par des militants européens, il faut que cette question elle prenne de l'ampleur. Et eux, ils appellent justement à cet international. Alors pour l'instant, avec des effectifs un peu limité, parce que cette question, elle est assez peu reprise. Mais personnellement, je ne vois pas d'autres possibilités de créer quelque chose qui aurait du sens et politiquement que d'avoir des formes d'organisation qui mêleraient les premiers concernés et les solidaires en Europe. Et on le retrouve localement. Et on le retrouve assez peu nationalement ou internationalement. Donc, cette idée d'international pour abattre les frontières, je pense qu'elle est en même temps un peu naïve et qu'en même temps, elle renvoie à ce que, à un moment, il faudra que, hors de nos frontières, hors de nos petits États, qui est un mouvement qui naisse et qui parle de cette espèce de folie des murs qui s'abat pas seulement sur l'Europe, mais qui s'abat aussi, on parlait des États-Unis, après il y a d'autres endroits, la Chine aux frontières avec le Bangladesh, le plus grand mur frontière du monde, enfin, voilà, quand je dis c'est naïf, c'est pas que cette idée elle est naïve, parce qu'elle me semble de très bon sens, enfin, de l'internationalisme, le soutien au peuple en lutte, le soutien, l'idée d'asile, qui vient quand même de... qui est censé être dans l'ADN de nos démocraties. Ça vient aussi de la Convention de Genève, ça vient aussi de... Il y a ce truc de climat politique et de repli sur soi qui fait paraître ça comme utopique et qui fait que, c'est un des trucs que je disais récemment, il y a une seule personnalité européenne de premier plan qui a pris plusieurs fois position pour l'idée d'accueil plus ou moins inconditionnel des personnes exilées, c'est le pape François. Moi, ça me fait mal, étant donné que je suis anard et que je viens justement d'une éducation catho que j'ai plutôt combattu dans ma vie, enfin combattu ou en tout cas dont je me suis débarrassé. Mais sinon, des personnalités de premier plan européen qui à un moment reviennent mettre cette question en disant mais en fait c'est essentiel je veux dire, pour, des valeurs politiques, et c'est faisable, comme l'a montré, d'ailleurs, voilà, d'un coup, l'accueil inconditionnel des Ukrainiens. Est-ce que montre ce qu'on n'est pas capable de faire avec les autres exilés, qu'on est capable de faire avec les Ukrainiens, c'est aussi une question de racisme et de xénophobie. Parce qu'il y a cette idée que voilà, les Ukrainiens, ils étaient comme nous, c'est-à-dire plus ou moins de la même religion et plus ou moins de la même couleur de peau, et que par contre, les masses, soi-disant les masses, celles-là, non, c'est pas gérable. Bah si, c'est gérable, mais il faut juste que ça revienne au premier plan des considérations et que ça soit traité d'une autre manière. Là, c'est à tous les niveaux, c'est médiatique, c'est politique, c'est sociétal, c'est idéologique. Et en ce moment, ça n'a clairement pas le vent en poupe. Mais on peut imaginer, j'ose espérer qu'à un moment, il y a un réveil politique sur ces questions. S'il y a une internationale qui est là-bas, les frontières, ce ne sera pas demain, je crois. Je crois qu'il faut plutôt attendre après-demain ou après-après-demain. Mais on peut déjà commencer à mettre en place des petits bouts. Quoi.
Merci beaucoup, Émilien Bernard. Et je le rappelle, donc vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Forteresse Europe, enquête sur l'envers de nos frontières », donc publié chez Lux Éditeur.